Bonsoir, cher Antoine.
Bonsoir, Arnaud Laporte, mes bien chères sœurs et mes bien chers frères. La Philharmonie de Paris aura traversé non sans tapage sa première année, le 14 janvier 2015, quelques jours après les attentats à Paris et à Montrouge, rappellent Marie Audroux et Sylvain Siclier dans Le Monde. Le bâtiment ouvrait ses portes en présence du président de la République, François Hollande. L'architecte Jean Nouvel, absent car il jugeait l'événement prématuré, avait manifesté par voie de presse et de justice son opposition. Depuis, l'auditorium de 2200 places a trouvé son public, aidé par le succès des deux expositions inaugurales, consacrées l'une à David Bowie, mort le 10 janvier, l'autre à Pierre Boulez, décédé le 5 janvier, dont il se murmure que l'auditorium portera un jour le nom. À l'heure où l'on enterre ses figures tutélaires et tandis que son mandat arrive à échéance, même si tout porte à croire qu'il sera prolongé, Laurent Bayle, 64 ans, à la tête depuis 2001 de la Cité de la Musique, devenue Philharmonie de Paris, livre dans le monde un état des lieux. Il s'agit indéniablement d'un premier succès, se réjouit-il. L'engouement des débuts s'est confirmé, non seulement dans la vie musicale parisienne, mais aussi sur l'échiquier mondial. Les chefs d'orchestre et solistes internationaux, les grands orchestres vantent les qualités de la salle. Certains vont même jusqu'à dire que la Philharmonie est la meilleure salle du monde. Quant au public, il est souvent émerveillé par la forme intimiste de la salle, la sensation d'immersion dans le son, le sentiment de participer physiquement au concert. Les Cassandres prévoyaient la perte d'un tiers des mélomanes par rapport à Pleyel. Qu'en est-il? Lui demandent les intervieweurs du Monde. Les première donnée qui compare la première année de la Philharmonie à une saison type de la précédente configuration Pleyel Cité de la Musique montre une progression globale de 65% du nombre de spectateurs et de 28% pour les concerts payants, répond Laurent Bayle. En 2015, nous en avons comptabilisé plus de 1,2 million, dont 75 000 pour les concerts gratuits. Cette augmentation s'équilibre dans les deux salles, la cité profitant de l'effet Philharmonie, malgré une jauge nettement supérieure, 1900 places à Pleyel, 2200 places à la Philharmonie, soit une hausse de 20% de la capacité d'accueil. La Philharmonie atteint un taux de remplissage de 97%, alors que celui de Pleyel était de 87% en 2014. Nous refusons souvent du monde et certains artistes attirent un public plus large que lorsqu'ils se produisaient à Pleyel ou à la Cité de la Musique. Il est vrai, précise Martine Robert dans Les Échos, que les tarifs des concerts sont beaucoup moins élevés qu'à Pleyel. L'Orchestre de Paris, en résidence précédemment dans cette salle Art déco et maintenant à la Philharmonie, a en particulier fait un gros effort et diminué ses tarifs de moitié. Grâce à cela, à la qualité acoustique et au confort du lieu, le public s'est élargi. 21% des spectateurs viennent de la province et de l'étranger contre 10% en 2014 et un rééquilibrage vers le nord et l'est parisien est observé, d'où l'émergence notée par Le Monde d'un public qui ne possède pas les codes de la musique classique et qui applaudit par exemple entre les mouvements d'une sonate ou d'une symphonie. On a même constaté que ce phénomène augmente lors des concerts du week-end destinés aux familles, précise encore Laurent Bayle. Il y a un appel d'air pour les nouveaux publics et nous acheminons vers un modèle du type Centre Pompidou dont la dynamique ne s'est jamais démentie. De quoi évidemment donner des idées à d'autres. Quand il a appris en mars 2015 sa nomination à la tête du London Symphony Orchestra à partir de 2017, Sir Simon Rattle, actuel chef du Philharmonique de Berlin, a déploré l'absence de salles de concert dignes de ce nom dans la capitale britannique, rapporte le correspondant du Figaro à Londres, Florentin Collomb. Emblème de l'architecture moderniste, le Royal Festival Hall sur la rive sud de la Tamise et le Barbican où réside le LSO commence à dater. Quelques mois plus tard, le rêve du chef d'orchestre britannique d'un nouveau lieu extraordinaire dédié à la musique est en passe de voir le jour. Une étude commanditée par le ministère des Finances et la mairie de Londres confirme la volonté de créer une salle consacrée à la symphonie. Elle accueillerait le LSO et des orchestres invités. Si tout va bien, elle pourrait voir le jour en 2023. Le rapport souligne le risque pour Londres de se retrouver à la traîne d'autres villes majeures comme Paris avec sa philharmonie flambant neuve, Tokyo, Los Angeles ou Lucerne dotées de salles modernes qui apportent une brillance, une immédiateté, une profondeur, une richesse et une chaleur absentes des salles londoniennes aujourd'hui. Le très riche arrondissement de la City s'est engagé à offrir un emplacement au projet sur le site de l'actuel Museum of London, appelé à déménager. Prochaine étape, un concours d'architectes doit être organisé. Le Center for Music, selon son nom provisoire, se veut ouvert, transparent et éducatif. La scène devrait être au centre de l'auditorium de 1900 places avec une acoustique idéale. Au-delà des concerts, le lieu devra accueillir le public toute la journée. On pourra observer les répétitions à travers travers des vitres depuis les halls, participer à des ateliers pédagogiques. Nicolas Kenyon, le directeur général du Barbicane, évoque sa vision, créer un centre capable de reproduire l'effet qu'a eu la Tate moderne sur les arts plastiques, atteindre de nouveaux publics, promouvoir la musique et en faire découvrir le frisson à de nouvelles générations. Il reste cependant bien du chemin à parcourir. Avant de voir ce beau dessin se concrétiser, le budget évalué à 278 millions de livres, soit 383 millions d'euros, dont près de la moitié de fonds privés est loin d'être bouclé. Les mauvaises langues, échaudées par l'expérience justement de la Philharmonie de Paris, estiment que la facture finale atteindra au moins le double. Dans le climat d'austérité budgétaire au Royaume-Uni, des voix s'élèvent pour dénoncer des dépenses jugées somptuaires. Bref, la Philharmonie de Paris devrait rester la meilleure salle du monde pour quelques années encore.